Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les quatre drôles de dames à qui vous pourrez poser vos questions, à Fred, à Johan, à Julien, à Polo, à 21h45, le 32-16 est ouvert, vous appelez, n'hésitez pas, on sera là pour y répondre. Le direct, c'est également la Ligue 2 du lundi soir entre la Sage Axio et la JOCR, chère à Johan Crochet, sous les yeux de Jean-Philippe Scapula. Salut Jean-Philippe.
Bonsoir tout le monde, salut à toutes et bon azir. C'est parti depuis 3 minutes ici, dans ce tout nouveau stade Michel Moretti, parce que vous le savez, c'est ainsi que le stade François Coty a été officiellement rebaptisé ce soir. Michel Moretti, c'était l'ancien président de la CA Ajaccio, décédé en 2008. Donc voilà pour le symbole et pour le côté festif de la soirée. Côté sportif, c'est le sprint final pour les deux équipes qui est lancé. La Géoxer, c'est pour prendre un petit peu de marge sur Angers et Saint-Etienne qui se sont imposés ce week-end. La CA, c'est pour ne pas se faire peur. C'est ainsi que Johan Caval désignait ce match. Attention, là, Benjamin Touré qui va se présenter face à Novalion. Benjamin Touré qui pique son ballon. Ça passe juste à côté. La première occasion énorme pour la CA Ajaccio dans ce match. On joue depuis 4 minutes, toujours 0-0, mais le sprint final est lancé.
La petite suée de Johan Crochet sur l'occasion Ajaccio. 0-0 après 3 minutes de jeu. Je rappelle qu'on suivra également des matchs importants en Liga, hein, Villarreal, Atlético de Madrid ce soir.
Ah bah oui.
Et puis l'Inter Milan, bon, match sans enjeu. Hein,
l'Inter Milan est déjà champion d'Italie. Sur la grosse.
Voilà. Alors, Fredo, L'Oréal, justement, se dirige tranquillement vers la 36e Liga de son histoire. Oui, 36e. Victoire ce dimanche, hein, Bernabéu contre Bilbao. 2-0, doublé d'un homme exemplaire au Real. Rodrigo, je crois, 5e saison à Madrid. Joueur régulièrement évoqué comme l'élément à sacrifier. Avec la venue de Kylian Mbappé.
Ben oui,
la question qu'on se pose, c'est serait-ce une injustice ?
Alors, il faut d'abord expliquer une chose, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Real est à travers le filtre d'Mbappé. C'est-à-dire que dès qu'on se projette au Real, on se projette avec Mbappé. C'est-à-dire, on regarde la performance d'un joueur, on dit, mais comment ça va se passer avec Mbappé ? On voit Vinicius à gauche, on dit, bon, mais avec Mbappé, c'est vraiment, il faut sentir ça, voir l'importance qu'a Mbappé aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'Mbappé comme s'il était déjà au Real Madrid. Et donc, Vinicius est intouchable. Vinicius, il va pas partir, il va jouer, il sera titulaire, il y a aucun doute à ce niveau-là.
Et à gauche.
Voilà. Et à gauche, mais après, on verra ce qui se passe. Et
si Vinicius joue. Oui,
c'est important.
Oui, mais ça, je vais dire qu'elle est, cette question, elle est finalement mineure parce que les grands joueurs entre eux savent jouer, parce qu'Ancelotti trouvera la solution. Et de toute façon, ils sont tout le temps en mouvement. Real Madrid, quand tu vois, enfin, il y a très rarement un œuf de référence.
Le truc, c'est qu'il y a les désirs de certains, quoi.
Oui,
tu vois, on sait que Mbappé est attaché à ça aussi, Vinicius l'est aussi.
Il y aura une solution, c'est pas ça qui est inquiétant, c'est de savoir, parce que tu peux jouer avec Bellingham à droite, Bellingham en numéro 10, à droite, Rodrigo, à gauche, Mbappé et Vinicius, et en pointe, Mbappé et Vinicius. Voilà, tu peux bien. Mais c'est quand même très très offensif. Et on se dit quand même qu'il y a quand même beaucoup de matchs. Bellingham est intouchable, Mbappé sera intouchable et Vinicius sera intouchable. Donc, que fait-on de Rodrigo ? Et c'est vrai qu'il est souvent présenté à Madrid, comme tu l'évoquais dans ta question, comme la variable d'ajustement. En disant, bah, finalement, est-ce qu'il ne va pas être relégué sur le banc ou est-ce qu'il acceptera ça ? Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux le vendre en fin de saison ? Mais quand tu vois le match qu'il fait hier, qui n'est pas un grand match du Real, Real supérieur, qui se savait supérieur, qui s'est dit, il y a qu'à contrer le match, c'était pas terrible, du début à la fin, il a mis ses deux buts, et voilà. Quand tu vois les buts dont qu'il est capable de marquer. C'est marrant hier, parce que j'ai pensé à Arjen Robben, mon cher Polo. En fait, il a fait depuis la gauche que Arjen Robben faisait depuis la droite. C'est quand tu contournes et que tu frappes. Avec une frappe enroulée. Ben, en fait, le but qu'il a mis Rodrigo au tout début de la rencontre, qui déjà ça tue l'Athletic Club de Bilbao, c'est vraiment magnifique. Et tu te dis, ce joueur, il est moins présent qu'un Vinicius. Vinicius, il va tout le temps, même quand il se plante, il va toujours revenir à la tâche. Il est ultra protagoniste dans un match. Qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, Vinicius, il est tout le temps au charbon. Rodrigo, il est parfois transparent, même régulièrement transparent. Mais il est capable de ces petits coups de génie qui changent l'avenir d'un match. On évoquait tout à l'heure la Ligue des Champions et les buts à la dernière minute du Real. On se souvient des buts de Rodrigo. Et donc, est-ce que le Real Madrid peut se permettre de se priver d'un joueur capable de ce genre de but.
Mais la clé, c'est sa capacité, sa propension à accepter d'être un remplaçant.
D'être un remplaçant, ou alors ça va être. Et là, on sait aussi ça le faire.
C'est quoi sa personnalité? C'est quelqu'un discret aussi? C'est quelqu'un de.
C'est
ce qu'il veut?
Il a un vrai caractère aussi. Hein.
D'accord.
Oui, un vrai caractère. C'est-à-dire un caractère qui va peut-être moins se voir comme Vinicius. J'ai l'impression que Vinicius, c'est celui qui s'énerve et puis après, il est tout gentil. Je pense que Rodrigo, de ce qu'on peut percevoir, c'est peut-être quelqu'un peut-être qui va être moins expressif, mais un peu plus rancunier. Voilà, c'est une vraie personnalité à gérer. Et c'est marrant parce que son destin est étroitement lié à celui de Vinicius. On les a vus évoluer tous les deux, quoi. Ce sont deux joueurs vraiment différents. Mais toute la grandeur d'une équipe, c'est d'avoir des joueurs complémentaires, des joueurs différents, justement. Donc voilà, j'espère que le Real Madrid et que Ancelotti seraient capables de trouver un rôle pour Rodrigo, parce que il est tellement différent des autres que tu.
Bon, sinon, il y aura sûrement des clients, en tout cas, pour le récupérer éventuellement. Eh ben,
franchement, tu prends ce joueur-là. Après, c'est pas quelqu'un qui va être présent dans tous les matchs et pendant 80 minutes dans un match. Il faut accepter ça. Sauf que même sur le banc, c'est quelqu'un qui dans une situation désespérée peut te faire changer le destin d'un match. Parce que vraiment, le but qu'il met, c'est avec une et surtout, mais même les deux buts, c'est la facilité avec laquelle il met ces buts-là. En tout cas, l'impression de facilité, de domination du ballon et de son être, en fait. Il y a zéro peur, quoi. Il y a zéro inquiétude quand tu le vois jouer, quoi. Il y a zéro surexcitation.
Voilà, ça fait partie des nombreux débats qui vont entourer l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Johan, c'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Igor Tudor, pour sa première sur le banc, la Lazio arrache une victoire 1-0 contre la Juve grâce à un but du Monténégrin Adam Maruzic à la 93e. T'as déjà vu une patte Tudor ou pas d'entrée?
Ah oui, mais c'est très très clair. Ah. C'est très très clair, pardon, à la fois dans les choix de départ de son équipe, donc c'est-à-dire comment il a articulé son équipe très très différemment finalement de ce que faisait Maurizio Sarri, mais ça on le savait puisque quand on suit la carrière d'Igor Tudor à l'Udinese, à l'Hellas Vérone, à Marseille, on sait très bien quel est son schéma préférentiel, ce qu'il aime mettre en place, ou en tout cas comment il aime que ses joueurs occupent l'espace. Le fameux 3-4-2-1, c'est son schéma, avec la variante 1-2 selon les joueurs disponibles déjà, selon les caractéristiques de l'adversaire. Est-ce que tu as besoin d'un joueur, par exemple, de rupture supplémentaire, d'un joueur capable de jouer en pivot? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui vient plus loin, qui participe plus au jeu? Donc, déjà, sur les choix de départ et comment cette équipe était composée, on avait évidemment une première réponse. La deuxième, c'est sur le déroulé de la rencontre, puisque vous avez une équipe de la Lazio qui a été très agressive dans le pressing sans ballon, évidemment. Caractéristique de Tudor et de pas mal d'entraîneurs qui sont passés par l'Italie avec cette fameuse individuelle sur tout le terrain, qui a d'ailleurs été brillamment relancé au milieu des années 2010 par Gasperini. Quand on parle d'héritage de tous ces grands entraîneurs, aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs, y compris d'ailleurs parfois sur des matchs en Angleterre, hein, Julien, et dans d'autres championnats, cet individuel tout terrain, on la doit beaucoup à Gasperini, qui a montré que le haut niveau pouvait s'atteindre aussi avec ça, alors que ça avait été totalement abandonné. Et cette agressivité-là, elle a totalement gêné la Juve, puisque au bout de 25 minutes, je m'amusais à regarder les stats, parce qu'au bout d'un moment, je dis, mais attends, on était à 25 minutes, je dis, mais la Juve, ils ont eu quand le ballon, finalement? Je regardais, ils étaient à 28% de possession. Voilà, ils ont été étouffés pendant une bonne partie de la première mi-temps, ils ressortaient pas un ballon. Ils ont été vraiment très très bons sur la lecture des situations, quand il fallait vraiment presser très haut, quand il fallait les attendre un petit peu plus bas au milieu de terrain, et tout de suite leur jumper dessus pour pas leur laisser le temps de faire le contrôle passe, etc. Donc très très intéressant. Ce qu'on a vu aussi, le caractère de certains joueurs, et ça va vraiment coller, je trouve, avec Tudor, qui a besoin un peu de réveiller cette équipe-là, qui s'était un peu endormie après la qualif en huitième contre le Bayern, après ce match aller où ils avaient battu le Bayern, où il y avait une telle euphorie et tout, puis c'était retombé d'un seul coup, pouf, et ils s'étaient tous un petit peu endormis. Donc le caractère de Tudor va bien aider. Dans les choix, ce qui a été intéressant, c'est on a deux joueurs qu'on attendait titulaires, Guendouzi, Luis Alberto, les deux étaient sur le banc. Alors peut-être est-ce lié au fait qu'ils vont déjà rejouer très rapidement contre la Juve, et encore une fois en Coupe d'Italie, demi-finale aller, et en perspective aussi du derby, parce que le week-end prochain il y a le derby de Rome qui est très important aussi. Par exemple, mais en parallèle, ce soir, Dybala ne jouait pas pour la Roma, pas de prise que rien avec Dybala. C'est aussi un peu ce jeu d'équilibre avant le derby de Rome. Et finalement, Guendouzi rentre en cours de match. Et là où tout le monde attendait, il disait, mais attends, 92e, va au poteau de corner, vous êtes trois là sur le côté gauche, faites petite combinaison entre vous, gardez le ballon, 0-0 contre la Juve, ça nous va très bien. Ben non, lui, il prend le ballon, il accélère, il va provoquer, centre et but de Marouzic. Donc c'est ce caractère-là, je pense que les joueurs de la Lazio, il y en a certains qui ont un caractère, mais qui peut parfois leur faire perdre les pédales. Il y a des joueurs qui ont du caractère, mais entre avoir du caractère
et être caractériel,
c'est différent. Luis Alberto, par exemple, est à la frontière entre les deux. Donc c'est très intéressant. Et moi, j'ai vraiment aimé cette première prestation de la Lazio. J'espère que ça va en amener d'autres très rapidement de ce niveau-là. Et tout était réussi pour Igor Tudor, finalement, sauf son costume avec la cravate 10 cm au-dessus de la ceinture. Bon, là, quand t'es en Italie, 10 cm au-dessus de la ceinture, c'est
un peu de goût. Mais oui, mais il y a des codes.
Et pourtant, il a passé des années en Italie, cet homme-là.
À Rome, fait comme les Romains.